Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute!
Amen. Quelle joie d'être des vôtres aujourd'hui et d'être dans cette belle ville de Québec, de revenir à Eva. On était dans votre assemblée dans le temps de Dominique Ourlin, il y a une vingtaine d'années de cela, et de pouvoir revenir, de vous voir et de voir la ferveur que vous avez. Oui, oui, c'est vrai. On est venu dans les débuts quand Richard Bastien était ici également. Merci. Je veux remercier votre pasteur pour l'invitation de pouvoir venir et de partager avec vous. Et ce matin, durant la réunion, je me disais, j'aurais besoin d'eau, je le sais. Je me disais, waouh, cette église-là, là, c'est comme une ruche d'abeilles. Hein? Vous savez ce que ça fait, une ruche d'abeilles? Ça produit du miel, ça travaille. Et je me disais, waouh, cette église-là, là, c'est comme une ruche. Ils sont occupés, ils aiment le Seigneur, sont passionnés par le Seigneur. On a vu ça au travers de la façon que vous avez loué, de la façon par laquelle vous avez prié. Et pour ceux de vous qui avez apporté une parole au moment de la prière, merci parce que vous avez confirmé que j'ai bien fait de changer ma prédication vendredi. Alors, j'avais envoyé mes PowerPoint à André il y a 2 semaines. J'ai dit, voilà sur quoi je prêche. Et vendredi, je me suis dit, non, c'est pas là-dessus que je devrais prêcher. Et ce matin, ce qui s'est passé dans la réunion a confirmé qu'effectivement, je devais aller dans la direction qu'on va aller. Quelle joie de pouvoir voir ce qui se passe dans votre assemblée. Lorsqu'on était à Valcartier avec la chapelle, quand on a quitté en 2009, on a dit à nos familles, une bonne église à visiter et à laquelle vous joindre, c'est Eva. Et ce matin, de voir les Bergeron, les Gilbert qui sont ici, et de voir la progression, l'accompagnement, le service qu'ils font envers l'Église, on est super content qu'on vous a encouragé à fréquenter l'Assemblée ici. Et quelle joie de voir ces beaux sourires. Nous, les enfants, on les a connus comme ça, on les a connus à la naissance, on les a connus bébés. Et de voir aujourd'hui des jeunes adultes, là, c'est toute une joie de constater ce que le Seigneur fait dans leur vie. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur, comme le dit l'acétate, « Vaincre nos peurs ». La semaine passée, j'étais à la retraite des hommes qui a eu lieu ici, et dans ce bâtiment, et j'ai partagé un enseignement le matin sur « Prendre ta place comme homme ». Prendre ta place, on a parlé de l'importance d'exercer une influence. On a aussi parlé que le Seigneur veut nous aider à vaincre nos peurs. Et ce matin, j'aimerais aller plus en détail et au lieu de tout simplement effleurer le sujet, de partager avec vous un enseignement sur ce sujet. Vaincre nos peurs. Tout le monde fait face à la peur. Et j'écoutais ce matin les commentaires, j'écoutais André, et André, on va parler du contrôle. Et quand on veut prendre le contrôle, c'est parce qu'on a peur. Et quand on a peur, on veut prendre le contrôle. On a de la misère à s'abandonner au Seigneur et on veut prendre le contrôle. On va en parler ce matin. Et tout le monde fait face à la peur à un moment donné dans sa vie. Et le Seigneur veut nous aider en tant qu'enfants de Dieu à vaincre nos peurs. C'est normal en tant qu'être humain d'avoir peur, mais ça vous quoi? C'est pas naturel en tant qu'enfant de Dieu. Et on va voir la différence ce matin au travers du partage. Il y a quelques semaines, j'ai partagé avec l'Assemblée à Otterburn Park parce que un rêve fou de lancer une église à 63 ans, de décider de s'en aller comme pasteur d'une église qui était morte. Il restait 5 personnes dans l'Assemblée et décider qu'on allait relancer l'église. Des gens me disaient, mais t'es malade, t'as 63 ans, tu devrais t'en aller à ta retraite. Ah, quoi la retraite? La retraite, c'est un changement d'activité seulement. OK? Mettez-vous ça dans la tête, c'est un changement d'activité. Et on s'est lancé dans ce projet-là en 2016 avec d'autres collègues. On est tous des pasteurs bénévoles. On fait tous d'autres choses pour gagner notre vie. Et on sert l'Église de façon bénévolement. On rend grâce au Seigneur. On est rendu à peu près à 70 dans l'Assemblée. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé avec eux le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Caroline. Et si vous voulez entendre des super de bons témoignages, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle jesuisdeuxième.com. Et le témoignage de Caroline est justement sur le site. Et Caroline, ça fait peut-être 7-8 fois qu'elle vient à l'église. Et c'est une jeune. Vous savez, une jeune, là, les jeunes aujourd'hui, ils ont de la misère à s'engager, ils ont de la misère à se souder à un endroit. Mais elle vient de plus en plus avec son mari à l'église. Et on voit là, qu'elle est en train de tisser une relation avec l'Assemblée. Et j'ai partagé le témoignage de Caroline parce que son témoignage, je trouvais qu'il était tellement... C'est le témoignage de milliers d'enfants dans la province du Québec. Et son témoignage est celui-ci. À l'âge de 5 ans, elle et sa sœur, qui avait 2 ans plus vieille qu'elle, ont commencé le circuit des familles d'accueil. Il y a des milliers d'enfants dans la province du Québec qui sont barlotés d'une place à l'autre dans des foyers d'accueil, qui vivent dans la peur. Ils étaient souvent entourés d'étrangers. Et sa grande peur était celle d'être séparé de sa sœur et de se retrouver abandonné. On a peur en tant qu'enfant, quand on est dans des milieux comme ça, d'être abandonné. On a peur en tant qu'adulte d'être abandonné. Fait qu'imaginez-vous, quand tu es un enfant, comment tu dois te sentir. À 18 ans, elle a été livrée à elle-même, parce que c'est ça qui arrive. Hein? Avec le système, à 18 ans, ben là, on coupe les cordons puis on t'envoie. Elle a été livrée à elle-même et elle s'est retrouvée seule. Elle s'est inscrite au cégep en travail social parce que Caroline voulait aider des jeunes comme elle, pris dans la même situation qu'elle. Avec les gens, Caroline, c'était une fille de party. Super de beaux sourires. C'était une belle jeune fille. Là. Si vous allez sur le site, vous allez voir, c'était une belle jeune fille remplie de vie. Et avec les gens, c'était une fille de party. Puis elle était capable de faire le party. Mais quand elle se retrouvait seule dans son petit logement, elle rentrait, elle enlevait ses bottes et elle se couchait sur son lit et elle pleurait de solitude. Durant ses études au cégep, elle s'est liée d'amitié avec un étudiant qui était là. Et l'étudiant l'a invité dans une église maison. Elle a rencontré des gens qui lui ont parlé de Jésus pour la première fois de sa vie. Et Caroline est venue à une expérience avec le Seigneur. Elle a découvert Jésus et elle a surmonté sa peur d'être abandonnée. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour, comme vous pouvez voir, je suis ému ce matin, là. J'ai beaucoup de respect pour des gens comme Caroline. Des gens qui ont eu une enfance perturbée, mais qui sont devenus des citoyens productifs. Parce que tu es sur une fine ligne. Hein? Tu peux tomber d'un bord, tu peux tomber de l'autre. Et Caroline est devenue une citoyenne productive qui contribue à la société. Aujourd'hui, elle aide les jeunes de Longueuil en travaillant dans une polyvalente comme travailleuse sociale. Et en plus de ça, ben, c'est une petite sœur dans le Seigneur. Et c'est toute une joie de la voir remplie de vie et l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Mais je vous rappelle que son histoire a débuté avec la peur. La peur. La peur d'être séparée de sa sœur, la peur d'être abandonnée. Saviez-vous que l'une des émotions les plus vécues dans notre société est celle de la peur? C'est celle de la peur. Parlez à n'importe qui. Tout le monde a expérimenté la peur. Et beaucoup de gens expérimentent beaucoup de peur. Beaucoup de peur. La peur est une émotion. C'est quoi la peur? J'ai une définition pour vous. La peur est une émotion d'anticipation et son utilité est de nous prévenir d'un danger potentiel. Donc, l'information qu'elle fournit nous permet de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger. Donc, à ce titre, la peur peut être précieuse. Mais ce n'est pas de ce genre de peur-là que je veux vous parler ce matin. La peur à laquelle je fais référence ce matin, c'est la peur de l'échec. Avez-vous peur de faillir? La semaine passée, à la retraite des hommes, il y a un jeune homme qui est venu me voir puis il me dit « j'ai peur de faillir ». J'ai dit « garde, arme-toi mon ami parce qu'on faillit plus souvent qu'on réussit ». J'ai dit, regarde un joueur de baseball, il va manquer la balle plus souvent qu'il va frapper la balle. Mais il n'arrête pas. On faillit souvent, plus souvent qu'on va réussir. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais on est pris avec cette peur. Il y en a que la peur de l'échec est tellement, tellement présente chez eux. La peur de mourir. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça en tant que militaire dans des zones de guerre. J'ai vécu ça avec des gens que j'ai accompagnés dans des moments de mort. La peur de faillir ou de faire une faillite. La peur de ne pas avoir assez. Il y a des gens qui vivent tous les jours se demandant s'ils vont en avoir assez. Ils ont peur. Ils ont peur de ne pas avoir assez. Il y en a qui ont peur de ne pas réussir en amour. Il y en a d'autres qui ont peur de ne pas être aimés. Il y en a d'autres qui ont peur d'être ridiculisés. Une multitude de gens qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Peu importe quel métier, tout métier confondu, de ne pas être à la hauteur. Il y a un paquet d'hommes qui ont peur de ne pas être à la hauteur comme père de famille. Il y a des mères qui ont peur de ne pas être à la hauteur comme mère de famille. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'être abandonné. Peur d'être rejeté. C'est incroyable quand on fait de la relation d'aide avec des gens, on fait de l'accompagnement avec des gens, puis tu vois des gens qui ont 40 et 50 ans et qui ont encore peur d'être abandonnés, d'être rejetés. La peur de finir seul dans la vie. Hein, avec le taux de divorce aujourd'hui. Wow! Les gens arrivent à 50 ans, 60 ans, commence à sentir un petit peu de faiblesse dans le corps, plus de fragilité. Et les gens ont peur de finir la vie seule, peur de vivre une vie insignifiante. Il y a 12 auteurs américains du nom de Richard Leiter et David Shapiro qui ont écrit dans leur livre « Repacking Your Bags » que la crainte numéro un des gens en Amérique du Nord, c'est de vivre une vie insignifiante ou insignifiante. Être insignifiant, si l'on croit le dictionnaire, c'est d'être sans importance. C'est de se retrouver dans une situation où on a l'impression d'être sans valeur. Et c'est pas tout, parce qu'au sens littéral, le mot évoque l'idée profonde de perdre le sens de sa vie. Alors ce matin, je vous pose la question, et vous, quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs? Quelles sont les peurs que vous n'osez même pas partager avec vos proches? Comme j'ai dit tantôt, nous avons tous expérimenté de la peur à un moment donné. Et nous savons que la peur crée de l'angoisse. Prenez par exemple l'histoire que nous retrouvons dans le livre de Marc, le chapitre 4, les versets 35 à 41. Dans votre Bible, c'est probablement libellé la même chose que dans ma Bible. Et le titre au-dessus de ce passage-là, c'est « La tempête apaisée ». Mais en fin de compte, il aurait pu donner comme titre « Jésus aide ses disciples à vaincre leur peur ». Parce que ce passage-là, c'est beaucoup plus concernant la peur des disciples que c'est concernant la tempête. Donc, ça aurait pu être la peur. Vaincre la peur. Le début du chapitre nous dit que Jésus avait eu une grosse journée de ministère. Cette journée-là s'était prolongée dans la soirée, et que durant la soirée, on lui avait amené beaucoup de démoniaques pour être délivré. Et à la fin de la soirée, Jésus est épuisé, il donne l'ordre à ses disciples de traverser la mer de Galilée. Donc, il monte dans une barque et la Bible nous dit que Jésus se dirige vers l'arrière et là, épuisé, il s'allonge sur un coussin et il se met immédiatement à dormir. Lui dormait le sommeil du juste. Il n'était pas pris comme nous avec l'anxiété. Où est-ce qu'on est couché et on pense. Non, Jésus, la Bible a dit, il s'est mis à tête sur le coussin puis part dans les bras de Morphée. Il s'est mis à dormir. Et pendant qu'il dort, la Bible dit qu'une tempête s'élève. Une tempête s'élève et les disciples sont saisis d'une frayeur et d'une angoisse déstabilisante. La tempête était si violente qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle de la capacité de naviguer au point que les flots se jetaient dans la barque. Pierre et Jean étaient des marins habitués aux tempêtes de la mer de Galilée, mais en dépit de leur expérience, ils avaient perdu le contrôle quand même. Des gars comme Matthieu et les autres, qui eux préféraient la terre ferme. Hein? Matthieu, c'était pas un pêcheur, c'était un collecteur d'impôts. Lui, il avait deux pieds sur la terre. Oh, wow! Quand on lit le texte de Matthieu et de Marc, la Bible nous dit qu'ils ressentaient un grave danger et ils avaient peur que la barque chavire. Donc, ils s'approchent de Jésus. Il me semble que je vois les gars en train de s'approcher de Jésus. Et si on aurait pu voir leur T-shirt, le battement de cœur devait être accéléré, là, parce que là, ils approchent auprès de Jésus et ils secouent le Seigneur puis lui disent, « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous allons périr? » Et la Bible dit que Jésus se réveille. Il dit rien. Il monte, calme la mer. Et ensuite, il regarde ses disciples et leur pose une question. À première vue, l'intervention de Jésus peut nous sembler froide et manquant de compassion. Quand on regarde ça, là, froidement, là, cette histoire-là, tu lis ça, puis tu dis, si tu fais de la relation d'aide, tu dis, « Ouais, le Seigneur, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein? » Parce que Jésus leur demande, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi, qu'est-ce qui arrive à votre foi? Encore une fois, pourquoi vous avez peur? » Comment Jésus peut-il poser une telle question dans une situation qui est aussi dramatique que celle que le texte nous décrit? Car souvenez-vous, le verset 36 dit que Jésus monte à bord et va se coucher à l'arrière de la barque. Et le texte dit que voilà que soudain, un vent violent se déchaîne, les vagues se jettent contre la barque, l'eau commence à se remplir dans la barque. Les mots « soudain », « un vent violent se déchaîne » sont bien appropriés, car souvent, les événements qui nous effraient le plus arrivent soudainement. Souvent, soudainement, les gens sont pris dans un tourbillon d'émotions en apprenant qu'un bien-aimé est atteint d'un cancer ou d'une maladie grave. Soudainement, lorsque les parents enterrent leur nouveau-né, quand j'étais pasteur à Gatineau, dans la même année, ça nous est arrivé deux fois, deux familles. L'enfant naît, quelques heures plus tard, il décède. Ou un bien-aimé meurt accidentellement. Mon frère, 49 ans, crise de cœur. Chez lui, l'ordinateur, ses genoux, le BlackBerry des mains. C'était bien mon frère, ça. Le cœur a arrêté, soudainement. Sa femme arrive chez elle, elle trouve son mari sur le divan. Soudainement, les parents vivent une impuissance en découvrant la dépendance de leur adolescent à la drogue. Soudainement, une jeune adolescente arrive à maison et annonce à ses parents qu'elle est enceinte. Soudainement, une conjointe annonce à son mari qu'elle le quitte pour son meilleur ami. Soudainement, un employé arrive au travail et voilà qu'il y a une chaîne après la barrière et une pancarte qui annonce que l'organisation a fait faillite et soudainement, il réalise qu'il vient de perdre son gagne-pain. En 2007, pendant que j'étais en déploiement en Afghanistan, nous traversions la ville de Kandahar et soudainement, un véhicule à côté du nôtre explose. Et nous nous retrouvons dans une embuscade. Soudain, Un vent violent se déchaîne. Est-ce que ça vous semble familier? Les épreuves de la vie sont souvent soudaines. L'épreuve nous arrive plus souvent qu'autrement. Soudain, c'est une surprise. Et parfois, nous pensons que parce que nous sommes croyants, l'histoire devrait se lire comme suit. Jésus monta dans une barque, accompagné de ses disciples, et soudainement, un arc-en-ciel décora l'horizon et des oiseaux survola la barque et avec un chant mélodieux, il chanta « Kumbaya ». Des fois, parce qu'on est enfant de Dieu, on dit « Non, mais ça ne peut pas nous arriver. Ça peut arriver à l'inconverti. » Mais pas à nous. Nous, on aime Dieu. On est ses enfants. Il veut le meilleur pour nous. Il y a des projets avec un avenir extraordinaire. Pour nous, il y a des projets. Il y a de l'espérance pour nous. Nous, ça ne devrait pas nous arriver. Mes avis, la vie peut être tragique. Que l'on soit non-croyant ou croyant. Nous faisons tous face à des tempêtes. Et certaines d'entre elles, nous les jugeons même injustes. En somme, ce n'est pas l'absence de tempêtes qui est important, mais plutôt avec qui nous les traversons. Ce n'est pas qu'il n'y en aura pas de tempêtes, c'est qui va être avec vous pendant que vous les traversez. Le fait d'être dans la barque avec Jésus ne veut pas dire qu'on ne sera pas secoué par les flots et même trempé par les vagues. Des fois, on a l'impression, parce qu'on est chrétien, « Ah, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard! » Non, 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 non. Tu vas être secoué dans ta barque. Non seulement que tu vas être secoué par les flots, mais en plus de ça, tu vas te ramasser, trempé, mouillé par les vagues. Jean 16, 33 nous rappelle qu'on va avoir des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. Que j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Le fait d'être dans la barque avec Jésus devrait nous aider à prendre conscience que nous n'avons pas à avoir peur des tempêtes, car Jésus est présent avec nous dans la tempête. Mais savez-vous quoi? Si on veut être franc, ce n'est pas toujours notre expérience. Des fois, dans l'Église, je trouve que parce qu'on se préoccupe de ne pas passer pour des mauvais chrétiens, parce qu'on a une image de ce que c'est un bon chrétien, parce qu'on a peur de ne pas passer pour un mauvais chrétien, on a peur d'être authentique avec les gens et de dire les vraies choses. Quand vous souffrez, dites-le que vous souffrez. Vous n'êtes pas en train de confesser là, quelque chose là, qui va vous arriver. Ça vous est déjà arrivé. OK? Alors, soyez francs. Je souffre. J'ai mal. Je ne comprends pas. Je suis confus. Je dis à l'Église de temps en temps que je prie même la prière, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que des fois, je me retrouve dans des situations d'incrédulité. Des fois, je ne sais pas où est la réponse. Je sais ce que ma tête sait. Oui, je suis capable de réciter des versets de la Bible, etc. Je sais ce que ma tête sait, mais mes émotions ne sont pas toujours à la même place. Il y a parfois un gouffre dans nos émotions entre ce que nous faisons face comme épreuve dans la vie. Et sur le plan naturel, c'est l'incertitude, des fois, qui vient nous saisir. C'est le sentiment d'impuissance, comme les circonstances que je vous ai citées tantôt. Il y a beaucoup de ces circonstances-là, tu regardes ça, puis c'est de l'impuissance que tu ressens. Et nous avons besoin que Christ nous aide à surmonter nos peurs, nous aide à surmonter l'inconnu avec une parole et une paix rassurante et libératrice comme seulement Christ peut nous donner. Car là où est Jésus, là est la liberté. Et 2 Corinthiens 3, 17 dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui parvient à surmonter et remplacer leur peur avec une telle paix. Car la peur vient nous voler notre liberté et nous rend prisonniers. Et nous nous mettons à douter de la capacité de Jésus de vraiment prendre soin de nous. Et si nous ne surmontons pas nos peurs, chers amis, les peurs vont finir par faire de nous des incrédules. J'aime la façon que Marc raconte le récit et dévoile l'état d'âme des disciples. Moi, quand je lis la Bible, j'aime ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe entre les versets. Pas juste ce que le verset dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les versets. Et j'aime la manière que Marc rend ce texte où il nous exprime l'état d'âme des disciples. Lorsqu'ils ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Intéressant quand on regarde ce texte-là, qu'ils n'ont pas remis en question la capacité de Jésus de surnaturellement calmer la tempête. Ce n'est pas ça qui était leur préoccupation. Mais plutôt, ils remettent en question son engagement et sa préoccupation pour eux, car ils demandent, « Ne t'inquiètes-tu pas de nous? » Regarde, on est en train de périr. Ne t'inquiètes-tu pas de nous? Ah bon, Québécois, nous as-tu oubliés? N'es-tu pas préoccupé par le fait que nous allons mourir? Et quand on est dans le milieu de l'épreuve, quand on est dans le milieu des circonstances difficiles, ça arrive des fois que ce genre de pensée-là nous arrive. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as oublié? Avez-vous remarqué ce que fait la peur? La peur, elle attaque, elle ronge, elle mine notre confiance dans la bonté, dans la fidélité et dans la capacité de Dieu à prendre soin de nous. Et lorsque Dieu laisse l'eau pénétrer dans notre barque et que les vents de l'orage nous ballottent de gauche et à droite, c'est souvent à ce moment-là que nous commençons à nous demander si Dieu nous aime vraiment. Aussi longtemps que l'eau est calme, ce n'est pas un problème. Mais quand l'eau là, commence, quand les vagues commencent, puis que tu vois l'eau commence à rentrer dans le bac, là, c'est souvent là qu'on commence à se demander, « Seigneur, est-ce que tu nous aimes vraiment? » Ça brasse, là. Est-ce que tu vas faire quelque chose, là? Alors, regarde, là, c'est vraiment critique comme situation. C'est même tragique comme situation. Est-ce que tu vas nous secourir dans cette situation? Est-ce que tu vas vraiment prendre soin de nous? La peur, elle provoque une multitude de doutes qui suscitent des angoisses. Souvenez-vous que je vous ai donné comme définition au début que la peur était une émotion d'anticipation qui se manifeste par une panique intérieure. Et comme les disciples dans la barque qui avaient perdu la capacité de naviguer, lorsque nous avons l'impression de perdre le contrôle des circonstances de notre vie, on a peur. On a souvent peur. Et quand nous avons peur, notre foi dans une intervention de Dieu est souvent à son minimum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à reprendre le contrôle plutôt que de chercher à laisser Dieu renouveler notre intelligence et saisir ses promesses. On cherche à prendre le contrôle plutôt que de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Et nous cherchons à nous secourir. Comment est-ce que je le sais? C'est ce qui m'est arrivé plus souvent que j'aimerais vous l'avouer ce matin. J'ai découvert tôt dans ma vie de jeune adulte que la peur sape vraiment notre confiance en Dieu. Les disciples avaient pourtant vu. Ils avaient vu Jésus faire une multitude de miracles. Ils avaient été témoins du miraculeux. Néanmoins, aucun d'eux n'a tenté de rappeler à l'autre qu'il pouvait faire confiance à Jésus et qu'il n'allait pas périr ou mourir. Il n'y a pas un embarque là, que le texte nous dit, là, qui s'est retourné de bord puis qui a donné une parole d'encouragement aux autres puis dit « Hey les gars, inquiétez-vous pas, là, le Seigneur est avec nous autres. » On est sécure. On est sécure. Non. Pas un. Contraire à la pensée populaire, être témoin du miraculeux ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de foi. Être témoin du miraculeux ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de foi. Combien de personnes dans les récits bibliques ont vécu des miracles et ont choisi de ne pas suivre Jésus? Eux autres, ils ont vécu le miracle. C'est différent que juste être témoin du miracle. Alors, s'ils ont vécu des miracles et qu'ils n'ont pas suivi Jésus, imaginez-vous que quand on est témoin du miraculeux, ça ne veut pas dire que c'est une augmentation de notre foi. S'il n'y a pas un abandon total de notre vie à Christ, le message que nous donnons par nos gestes est que nous sommes le Dieu de notre vie et que nous nous faisons plus confiance à nous qu'à lui. Car nous tentons de garder le contrôle et nous continuons, plus qu'on essaie de garder le contrôle, là, le plus qu'on se retrouve dans une situation où on entretient nos dépendances, nos peurs, nos phobies, et plus que nous réalisons notre incapacité à les vaincre, plus que la peur s'empare de nous. Et cette peur contribue à augmenter une amnésie spirituelle qui vient miner notre confiance et notre foi en Jésus. En fin de compte, c'est un cercle vicieux qui siphonne la vie de notre âme et finit par nous paralyser. Pendant que j'étais en Bosnie et en Afghanistan, j'ai fait des interventions auprès de soldats qui, à un moment donné, ressentaient qu'ils allaient mourir. Et voici ce que j'ai appris. Lorsque nous anticipons un danger qui pourrait entraîner la mort, si notre confiance, si notre foi en Dieu n'est pas plus grande que la peur de mourir, le désir d'être en sécurité devient notre Dieu et notre motivation devient celle de survivre et de vivre une vie sans risque. Je répète, lorsque nous anticipons un danger qui pourrait entraîner la mort, si notre confiance en Dieu n'est pas plus grande que notre peur de mourir, le désir d'être en sécurité devient notre Dieu et notre motivation devient celle de survivre et de vivre une vie sans risque. Et mes amis, c'est un fait irréfutable, que toute personne obsédée par sa sécurité n'accomplira jamais d'exploit et n'expérimentera pas de victoire. Quand on est obsédé par notre sécurité, la seule chose qu'on veut faire, c'est aller se cacher loin du danger. On veut se cacher. On veut se cacher loin du danger. Et c'est justement pour se faire rassurant et augmenter notre foi que les paroles que Jésus a le plus souvent répétées dans le Nouveau Testament sont des paroles comme « ne crains pas ». Prends courage. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Elles sont des paroles pour nous libérer de la prison de la peur. Car la peur peut envahir le monde qui nous entoure, mais elle ne doit pas dominer nos cœurs. La peur peut envahir le monde et on vit dans un monde qui a peur. Peu importe quel journal vous allez lire, quel bulletin de nouvelles que vous allez écouter, on ressent la peur dans la société. La peur peut envahir le monde qui nous entoure, mais elle ne doit pas dominer le cœur de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus se fait rassurant en disant, « Ne vous inquiétez pas. » Dans Matthieu 6, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans Matthieu 7, Prends courage, mon enfant, tes enfants te sont, tes péchés te sont pardonnés. Ou bien donc, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont point de pouvoir pour faire mourir l'âme. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Dans Matthieu 10, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Luc 8, les paroles que Jésus donne à Jaïrus qui vient d'apprendre que sa fille est morte. Et Jésus lui dit, ne crains point, crois seulement, ta fille guérira. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Jean 14, 27. Et en terminant ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un merveilleux texte que nous retrouvons dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Et dans la version Louis II, le texte dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je vous le dis tout de suite, en tant que vétéran, je préfère la manière que la parole vivante rend le texte, parce que je trouve que c'est tellement plus combatif. OK? Alors, je vous le mets à l'écran. Voici la parole vivante, elle nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. » Wow! Aimez-vous la version de la parole vivante? Voulez-vous la répéter avec moi? Êtes-vous prêts? On y va, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Wow! Wow! La Bible, chers amis, nous enseigne que c'est normal en tant qu'être humain d'avoir peur. Mais ce n'est pas naturel pour l'enfant de Dieu. Car nous n'avons pas été créés pour vivre dans la peur. On n'a pas été créés pour vivre dans la peur. On a été créés pour vivre dans l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 18 dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Une foi, une confiance parfaite en Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel fait quoi? Elle bannit la crainte. Elle bannit la crainte. Voici comment la parole vivante exprime ce même verset. Il dit, dans un véritable amour, il n'y a pas de place. J'aime ça. Il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parfait chasse toute trace de peur. La peur, mes amis, est un comportement que nous avons appris à cause de notre nature pécheresse. La peur, c'est une émotion qu'on vit à cause de notre vieille nature, à cause de cette vieille nature qui a l'illusion de contrôler. Pas grand-chose qu'on contrôle dans la vie, si on veut être franc, hein? Mais en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, en tant que nouvelle créature, une personne qui a invité Christ dans sa vie et qui devient enfant de Dieu, la puissance pour aimer et faire confiance à notre Créateur au milieu des tempêtes les plus sombres nous fait vaincre nos peurs. L'Esprit de Dieu nous donne la puissance de vaincre la peur par l'amour de Dieu. Souvenez-vous ce qu'on disait tantôt, il faut que notre confiance en Dieu soit plus grande que la peur de l'inconnu. Il faut que notre confiance en Dieu, notre confiance dans un amour inconditionnel soit plus grand que nos peurs. C'est pour cela que Paul peut déclarer, ce n'est pas un esprit de timidité et de peur, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Chers amis, nous sommes tous conscients qu'il y a une multitude de circonstances dans notre vie dans lesquelles on n'a aucun pouvoir pour les contrôler. Mais l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur veut nous donner une maîtrise sur nos réactions aux circonstances. Je n'ai pas de pouvoir sur les circonstances, mais j'ai un pouvoir sur la manière que je vais choisir de réagir. On vient de perdre un membre de notre congrégation, un homme qui aurait dû décéder il y a 15 ans, mais à qui le Seigneur a donné une extension de vie. Il avait un cancer des poumons et il a vécu 15 ans plus que ce que les médecins lui ont dit qu'il allait vivre. Et la dernière fois que j'ai visité ce frère avant qu'il décède, il y a quelques semaines, quand on l'a visité, on a passé beaucoup de temps à parler du ciel, beaucoup de temps à parler de l'amour de Dieu, beaucoup de temps à parler de ce qui l'attendait. Et vendredi, pendant que je planifiais les funérailles avec sa femme et sa fille que je ne connaissais pas, j'ai dit, sais-tu ce que j'ai apprécié de ton père au travers des visites qu'on a fait à l'hôpital, au travers des visites qu'on a fait à la maison? J'ai jamais vu ton père amer. Jamais. J'ai jamais vu ton père se plaindre. Pourtant, il était dans la douleur. Je l'ai jamais vu se plaindre. Jamais vu se plaindre. L'attitude de son cœur en était une d'abandon. Dans la grâce, la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous exhorte à expérimenter un renouvellement de notre mentalité et de nos habitudes de vie, un renouvellement de notre façon de penser afin d'ancrer nos pensées dans l'amour de Dieu, ce qui va nous permettre de surmonter nos peurs. Proverbes chapitre 23, verset 7 dit, c'est un passage extrêmement révélateur, il dit un homme, une personne, est telle que sont les pensées de son âme. Ce qui se passe dans nos pensées, mes amis, est beaucoup plus important qu'on pense, car on est tel que les pensées de notre âme. Sur le plan humain, si nos pensées sont obsédées par la peur, nous développons toutes sortes de phobies et nous anticipons le pire. Mais sur le plan divin, lorsque l'amour de Dieu vient envahir nos pensées, la Bible nous dit que l'amour de Dieu bannit la peur et nous libère. Et voilà pourquoi Christ nous invite ce matin à prendre nos peurs et de les placer au pied de la croix. On a commencé en posant la question, c'est quoi vos peurs? Je ne connais pas vos peurs, mais je vous invite de les placer au pied de la croix. Imaginez ce que serait votre vie si vous aviez une confiance absolue que Jésus est avec vous dans votre barque et qu'il remplaçait la peur devant les vents menaçants de votre vie avec une paix que seulement Dieu peut donner. Imaginez un jour, juste un jour, en vivant sans la crainte de l'échec, des ravages, de la maladie, du rejet, de l'abandon ou d'une catastrophe quelconque. En quoi votre vie serait-elle différente si toutes les craintes étaient bannies de votre cœur et que vous avanciez dans un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme et d'une parfaite maîtrise de vous-même? Quelqu'un a mentionné ce matin, je ne me souviens pas lequel des frères, mais il y en a un qui a mentionné notre identité en Christ. Et samedi passé, j'ai partagé avec les hommes une petite carte que je distribue quand je fais de la formation de leadership parce que je me suis aperçu qu'un des plus grands défis des chrétiens, c'est de saisir leur identité en Christ. On le sait, là, dans notre tête, là, on le sait, mais de vraiment le saisir et de le vivre. Alors, j'ai imprimé une petite carte qui s'intitule « Qui suis-je? » Et quand je fais de la formation, je donne la carte, puis je dis aux gens, placez ça sur votre miroir, sur votre frigidaire, peu importe où, mais tous les matins, lisez cette carte parce que voilà qui vous êtes. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Je suis merveilleusement créé. Je suis un chef-d'œuvre admirable. Je suis aimé, choisi, racheté à un grand prix. Je suis un fils, une fille du Père céleste. Pardonné, une nouvelle créature, libre de toute condamnation. Je suis saint, juste, sanctifié, libre de m'approcher de Dieu avec confiance et audace. Connu de Dieu par mon nom. Je suis un temple où Dieu habite. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis un citoyen du ciel et un étranger sur la terre. Wow! Mon passeport qui dit que je suis quoi? Canadien. C'est juste de passage, ça. Wow! Moi, je suis un citoyen du ciel. C'est rien, mon petit passeport. Mon petit passeport bleu, mon petit passeport vert quand j'étais dans l'armée. Hein, on est citoyens du ciel. On est des étrangers sur la terre. On est de passage. On est ennemis du diable. On est des gens qui sont ministres de la réconciliation. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu par sa force et sa grâce. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des agents de transformation. C'est qui nous sommes? Des fois, nos pensées ne nous disent pas que c'est ce que nous sommes. Des fois, les pensées disent, « Ah oui, mais toi, là, je te dis, avec le passé que tu as, là, tu es vraiment, ça fait dur ton affaire. Si tu veux que Dieu fasse avec toi, wow, 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 sortez votre petite carte et mettez-vous à lire. Voici qui je suis. Voici qui je suis. Voici qui je suis. » Chers amis, puissions-nous embrasser la vie et ses défis avec audace, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur notre identité en Christ. Ce n'est pas qui je suis, moi, comme être humain qui est important. C'est ce que Christ est en train de faire de moi comme être humain. C'est ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu qui est important. Ce qui m'assure l'éternité, ce n'est pas qui je suis comme personne, comme être humain, c'est qui je suis en Christ. Alors que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Et le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne soyez pas effrayés. Car mes amis, nos vies entre les mains de Dieu. Nos vies entre les mains de Dieu. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. Au-delà des épreuves, des difficultés, au-delà de ce que les êtres humains nous ont fait, c'est incroyable ce que Dieu veut faire avec notre vie.
Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-québec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.